RFI. Grand reportage, François Ballarin.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le supplément du dimanche de vos grands reportages diffusés cette semaine. Deux reportages, bien sûr, dans une vingtaine de minutes. Nous sommes à Kourou, en Guyane. Justine Fontaine, journaliste au service économie de RFI, nous y emmène. C'est là que le 9 juillet prochain, Ariane 6 doit s'envoler pour la première fois, un lancement crucial alors que l'Europe n'a plus son propre accès à l'espace depuis des mois. La fusée Ariane 5 est partie à la retraite l'année dernière. On retrouve Justine Fontaine dans une vingtaine de minutes. Mais pour l'instant, plus que quelques semaines avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris, pour le moment, la capitale française est encore un vaste chantier. Elle se fait belle pour l'occasion. Selon les projections, près de 15 millions de visiteurs sont attendus pour cette grand-messe du sport. Le tout sous l'œil des caméras du monde entier. Mais se faire belle, à quel prix ? Depuis des mois, des voix s'élèvent pour dénoncer ce que l'on appelle l'invisibilisation d'une partie de la population qui ne collerait pas avec la carte postale. Priorité des autorités, rendre invisibles les sans-abri, les migrants en seraient d'ailleurs les premières victimes. Paris 2024, la crainte d'un nettoyage social, un grand reportage d'Amélie Beaucourt et Marie Casadebet.
Il est 6h du matin, 250 policiers investissent un immeuble de bureaux désaffecté. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi la police est là ?
Ça fait 3 ans qu'on vit ici. Je pense que c'est à cause des Jeux Olympiques, nous devons quitter les lieux.
Des femmes, des hommes, des enfants, les yeux encore embrumés, quittent ce qui était encore, il y a un instant, le plus grand squat de région parisienne. Un Ivoirien et sa fille de 8 ans se sentent chanceux. Une chambre d'hôtel les attend dans la ville voisine.
Dieu merci, on nous a logés là-bas.
Vous avez combien de nuits d'hôtel, vous savez ?
Je ne sais pas.
Je peux lui poser une question ?
Oui, tu peux la poser une question.
Est-ce que tu as eu peur ?
J'ai eu un petit peu peur.
Tu as eu peur de quoi ?
Qu'on me dehors et qu'on dort dehors, qu'on dort dans la rue et que moi je vais à l'école, je ne vais pas rester dans la rue comme ça que je vais à l'école.
Les places d'hébergement, devenues trop rares, sont attribuées en priorité aux personnes qui ont un contrat de travail d'au moins 6 mois. Les autres, des bus, les attendent devant le bâtiment. L'un part à Orléans, au sud de Paris, l'autre à Bordeaux, à 600 km d'ici. Une jeune femme érythréenne, accompagnée de sa sœur et de sa fille, leur tourne le dos. Elles traînent leurs valises et un petit vélo rose jusqu'au bord de la route.
Ils nous ont demandé d'aller à Bordeaux, mais ma sœur fait des études de pharmacie à Paris.
Donc vous avez refusé d'aller à Bordeaux ?
Oui.
Je suis déprimée parce que je ne sais pas où on va aller et ce qu'on va devenir. Juste dormir dans la rue ?
Sa fille, à ses côtés, ne semble pas comprendre la gravité du moment.
Je m'appelle Eden et j'ai 6 ans.
Tu sais où est-ce que tu vas dormir ce soir ?
Dans une nouvelle maison.
Sa mère éclate en sanglots, elle ne sait même pas quelle direction prendre. Près de 450 personnes, pour la plupart d'origine africaine, vivaient dans ce bâtiment voué à la destruction. Un chiffre atteint après le démantèlement de plusieurs autres squats et de campements sauvages. Le 38 rue de Seine, à Vitry, était devenu un refuge, malgré des conditions de vie de plus en plus difficiles. Et un symbole pour les associations qui dénoncent un nettoyage social, une opération place nette avant les Jeux Olympiques.
Donc ceux qui viennent pour la première fois, on est le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est un collectif qui regroupe aujourd'hui 102 associations du domaine de la solidarité qui travaillent au quotidien avec les personnes sans-abri, les personnes migrantes, travailleurs, travailleuses du sexe, personnes usagères de drogue, personnes victimes de traite et qui alertent depuis maintenant 8 mois sur les conséquences sociales de l'organisation des Jeux Olympiques sur les populations les plus précaires.
Après un an d'observation, le collectif du revers de la médaille présentait début juin ses travaux lors d'une conférence de presse. Un rapport de 70 pages annonce la couleur, le harcèlement, l'expulsion et l'invisibilisation des indésirables sur les lieux où se tiendront les Jeux Olympiques de Paris. Lila Cherieff est chargée des questions d'hébergement au Secours catholique et membre du collectif.
Ce qui nous permet d'affirmer qu'il y a du nettoyage social, c'est plutôt l'accélération des expulsions, que ce soit des expulsions sur les lieux de vie informels, que ce soit des expulsions sur le public des personnes exilées, des expulsions administratives où on ne passe pas devant le juge et qui sont à la main soit des municipalités, soit des préfectures.
Alors, c'est du taf, mais ça vaut le coup.
Le collectif se repose sur des données. Paul Allozy est coordinateur à Médecins du Monde. Il est aussi le porte-parole du revers de la médaille. Il nous dévoile sur l'écran de son ordinateur une série de tableaux Excel.
On s'est dit qu'il y a ces événements qui se passent tout le temps, il y a la tension médiatique et politique sur un événement. Ah, tel squat va se faire expulser, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas de données long terme. Donc on a repris des bases associatives, journalistiques, des bases de recherche, certaines bases des autorités qu'on a pu récupérer aussi. Et on a toutes les dates d'évacuation avec le nombre de personnes, les lieux. C'est hyper exhaustif.
Le collectif peut ainsi mesurer l'évolution de la politique d'évacuation des logements informels de Paris et sa proche banlieue.
Donc là, il y a le nombre d'opérations. Et donc, si on va au total de l'année 2022, on arrive à 28 opérations de mise à l'abri. D'accord ?
Qu'est-ce qu'on appelle opération de mise à l'abri ?
Alors, ce qu'on appelle opération de mise à l'abri, c'est quand les autorités viennent sur un campement informel ou un squat et ils disent aux gens, voilà, il y a des bus dans lesquels on vous propose des solutions, allez-y, montez. Si vous n'êtes pas OK avec ces solutions, vous partez, vous quittez votre lieu de vie informel, vous ne pourrez pas rester ici. Voilà, alors pour 2022, il y a eu 28 opérations et on a des opérations avec énormément de gens pris en charge. 279 personnes, puis 180, puis 499. Je crois que sur le total, je pourrais regarder, mais on est à peu près à 6000 personnes. 2023, on est sur un total de 34 opérations. Et la séquence qui est extrêmement importante, c'est entre septembre et décembre 2023. Et là, vous allez voir mon tableau, on a 15 opérations. Donc c'est quasiment toutes les semaines. Et pour un nombre de personnes prises en charge qui est moindre. On a des opérations à 49 personnes, 80 personnes. Donc il y a un changement de pratique. En plus, c'est tous les mardis.
Ce rythme très, très intense, ouais, avec une fois par semaine, il se poursuit en 2024.
C'est ça. Depuis le mois de janvier, on est seulement en mai et on a déjà 21 opérations. Ce qui est hyper choquant en 2024, là vous voyez dans mon tableau de nombre de personnes prises en charge, il y a beaucoup de zéros. Parce qu'en fait, là, il y a plein d'opérations qui sont seulement des évacuations. Soit on ne propose même pas de bus aux personnes, parce que c'est des campements de mineurs, parce qu'on met des arrêtés à cause de la montée de la crue de la Seine, et que c'est une population, les mineurs en recours, qu'on ne veut pas prendre en charge, soit parce que les personnels même arrêtent de monter dans ces bus.
Par rapport aux emplacements, à l'endroit où les gens sont évacués, est-ce que ça aussi, vous l'avez observé, ça dépend un peu de où ils sont installés?
Nous, il y a des campements sur lesquels on fait des maraudes médicales, des micro-campements à Lille-Saint-Denis, des campements de quelques dizaines de personnes à Bobigny, dans le parc départemental de la Bergère. Jamais les autorités sont allées dans ces lieux où les gens sont complètement invisibles pour leur proposer de monter dans un bus. On le fait quand ils sont au Pont Neuf, au Pont Marie, et là je cite mon tableau, le tunnel Vio au bord de la Seine, l'hôtel de ville, les quais de Seine Pont Marie. Enfin, en fait, là on est vraiment sur plein de lieux, devant la mairie de Paris, le Pont Charles de Gaulle. Il y a encore quelques mises à l'abri qui se font dans le 19e, dans le nord-est parisien, qui sont un peu les lieux historiques des campements. Mais maintenant que les campements se sont beaucoup déplacés au bord de la Seine, bah ça s'est énormément concentré sur ces endroits-là, parce que c'est aussi les lieux de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
Si la politique de l'État a changé, c'est aussi qu'il dispose depuis un an d'un nouveau moyen d'hébergement. Désormais, à chaque évacuation ou presque, des bus sont affrétés pour emmener les migrants qui l'acceptent vers un logement temporaire, loin de Paris, en province. Dans le quartier de la Caplette, à Marseille, les anciens immeubles où logeait le personnel médical des hôpitaux de la ville accueillent désormais des personnes sans-abri en provenance d'Île-de-France. Johnny en est le gardien, il nous fait visiter.
C'est des petits chambres pareilles, c'est les mêmes configurations, les lits, un frigo, un matelas, voilà. C'est la salle de bain, les brosses à dents, les serviettes jetables, tout ce qui est pour dépanner pour les gens, quoi. La semaine dernière, on avait reçu 15 personnes. Et toutes les 3 semaines, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Voilà.
Au total, 50 studios sont proposés dans ce qu'on appelle un SAS régional. Il en existe 10 comme celui-là en France. Ici à Marseille, c'est la société Adoma, spécialisée dans l'insertion par le logement, qui s'occupe du lieu. Sonia Ediri est intervenante sociale. C'est elle qui reçoit les sans-abri après les 8 heures de bus qui séparent Paris de la cité phocéenne.
C'est la première chose qu'ils demandent pour certains. J'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur, j'ai mal à la cheville. Ils voient l'infirmière directement. C'est le lendemain qu'on commence à parler de papiers.
La majorité des hébergés ici sont des hommes seuls, avec un parcours migratoire et des situations administratives complexes. Sonia Ediri a 3 semaines pour examiner leurs dossiers et les réorienter vers des dispositifs déjà existants, toujours dans la région. Un répit de courte durée, mais bienvenu pour Mansour, ce réfugié érythréen de 26 ans qui vient de passer 2 mois dans la rue à Paris.
Ici, je suis bien, je me repose. J'ai été bien accueilli. Ils m'ont donné une chambre et 35 euros de ticket service cette semaine pour que je puisse aller faire des courses.
35 euros. Oui, ça va aller.
Lorsque son campement a été évacué 5 jours avant notre rencontre, Mansour monte sans hésiter dans le bus direction Marseille. Il est sans ressources après avoir perdu un emploi d'agent d'entretien qu'il occupait depuis 2 ans à Chartres, une ville au sud de Paris. Il espère un nouveau départ.
Je voudrais trouver une formation. C'est aussi pour ça que je suis venu ici. Je sais qu'en France, c'est difficile de travailler si on n'a pas de diplôme. À Chartres et à Paris, j'ai demandé à faire des formations, mais il fallait attendre d'avoir un rendez-vous et je n'en ai jamais obtenu. Aucune des démarches que j'ai entreprises là-bas n'ont abouti. J'espère qu'ici, ma situation pourra se débloquer.
Le financement du SAS court jusqu'à décembre 2024. Preuve supplémentaire pour le collectif du revers de la médaille que le dispositif a pour vocation d'éloigner les sans-abri d'Île-de-France en prévision des Jeux Olympiques. Émilie Tapin, directrice hébergement d'Adoma, lève les yeux au ciel lorsqu'on le lui fait remarquer.
Déjà, le financement va jusqu'au 31/12/2024. Les Jeux Olympiques, sauf si je me trompe, doivent s'arrêter en octobre. Donc si c'était lié à ça, ça veut dire qu'au 30 octobre, on ferme en fait. La question de les délocaliser de l'Île-de-France, à mon sens, n'est pas non plus un vrai sujet, puisque si c'était vraiment ça, les personnes repartiraient en Île-de-France. Nous, on avait la chance, en fait, d'avoir la résidence. Pour pouvoir héberger, il faut avoir du bâti. S'il n'y a pas de bâti, il n'y a pas d'hébergement. L'Île-de-France, au niveau urbanisme, c'est compliqué, quoi.
Les SAS seraient sans rapport avec les Jeux Olympiques. C'est aussi ce qu'on entend à la préfecture d'Île-de-France, celle qui organise les opérations de mise à l'abri, celle qui affrète les bus. Adeline Savy, chef du cabinet du préfet, réfute tout autant les accusations de nettoyage social.
Ouais, c'est un terme qui est fort et qui, pour moi, n'est pas adapté à la situation, encore une fois, là, véritablement. Le dispositif, finalement, il existait un peu avant. Là, on l'a structuré, en fait, on l'a organisé de manière un peu plus pérenne, puisque effectivement, on était amené assez régulièrement sur des très gros campements à rechercher des places pour faire ces évacuations en Île-de-France et ailleurs. Donc ça, c'est des choses qui perdureront au-delà des JO. Ce qu'on peut indiquer, par contre, spécifiquement aux JO, tous les sites où on va monter des structures éphémères, là, il y a eu un gros travail de fait qui a été, pour le coup, spécifique aux JO, d'identification des grands marginaux hein, qui sont là depuis assez longtemps et qui n'avaient pas réussi à s'intégrer dans les systèmes qu'on leur proposait. Donc il y a eu une estimation d'environ 300 personnes. Et donc on a créé un petit peu plus de 200 places un peu spécifiques.
200 places d'hébergement pour l'héritage social de Paris 2024, jeu de l'inclusion. Des places qui ne bénéficieront ni aux sans-abri qui alignent leurs tentes au bord de l'eau, ni aux évacués des bidonvilles et des squats de la région parisienne.
Donc ça fait quand même 30 jours qu'il y a eu l'expulsion du squat de Vitry. Demain, on sera le 17, donc demain...
Un mois après l'évacuation du squat de Vitry-sur-Seine, plusieurs membres du collectif Le Revers de la Médaille se retrouvent dans un centre parisien de l'ONG Médecins du Monde. Ils vont prendre des nouvelles des anciens occupants de l'immeuble désaffecté.
Dans l'idée, nous, on va se concentrer sur toutes les personnes qui étaient en SAS, parce que les SAS, c'est 3 semaines de prise en charge.
Que sont-ils devenus ?
Ok, on fait ça ?
Allez,
super.
On va regarder juste les box qui sont libres, et après pour vous deux, bah...
Ouais.
Okay. Du coup, moi, c'est Milo Borsotti et je suis chargé de projet sur la veille sanitaire et permanence psy.
Vous pouvez m'expliquer là juste ce que vous allez faire et la mission du jour.
Alors, aujourd'hui, la mission, c'est de faire un rappel des habitants de l'ancien squat de Vitry. L'idée, c'est de confronter un peu le discours théorique de l'État sur on a une proposition d'hébergement pour chaque personne. Est-ce qu'on a vraiment des orientations pérennes pour des hébergements dans le long terme ou est-ce que c'est vraiment des solutions de briques et de broc sur du court terme et finalement juste un effet de com'?
07 44 44. Il était au SAS de Bordeaux. De quoi dormir mais rien à manger. Chambre partagée avec 5 personnes.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
احنا جمعية اطباء العالم. Médecins du Monde.
Milou Borsotti est accompagné d'un traducteur arabophone pour pouvoir échanger notamment avec les nombreux anciens squatteurs soudanais.
Alors, monsieur, on lui a dit qu'il devait quitter Orléans pour aller à Tours et d'appeler le 115 là-bas. Il dit, bon, il a appelé le 115 plusieurs fois. Il a dit bon, qu'il n'y avait pas de place.
Ça, c'est typiquement la situation que vous redoutez ?
Oui, exactement. Donc là, du coup, c'est une personne qui a le statut de réfugié, qui est légalement sur le territoire français, qu'on l'a envoyé dans un SAS, avant de lui dire, bon, bah, maintenant, il faut que tu partes du SAS, que tu ailles dans la ville d'à côté pour appeler le centre d'hébergement d'urgence, sachant que ces centres d'hébergement d'urgence sont tout aussi saturés que dans toutes les villes de France, et du coup, ça veut dire qu'à la fin, il est à la rue.
Dans la pièce d'à côté, un autre Soudanais raconte qu'il est arrivé dans le SAS de Bordeaux avec un groupe d'une trentaine de personnes, mais la plupart ont quitté les lieux avant même la fin des 3 semaines de logement proposées.
Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas confiance, parce qu'ils ont l'expérience. Souvent, c'est des solutions temporaires, donc ils n'ont pas voulu rester.
Selon le collectif, le revers de la médaille, près de 60% des personnes hébergées en SAS se retrouvent sans solution de logement au bout de 3 semaines, à la rue ou dépendantes du 115. La préfecture d'Île-de-France n'a pas pu confirmer ces chiffres. Les seuls dont on dispose sont ceux du SAS de Marseille. Après leur passage dans ce centre, la moitié des hébergés ont rejoint des dispositifs d'accueil dédiés aux demandeurs d'asile. Un peu plus d'un tiers ont été orientés vers l'hébergement d'urgence et donc le fameux numéro d'appel, le 115. Lors de l'évacuation du squat de Vitry-sur-Seine, seulement 80 personnes ont accepté de partir en SAS. Cette jeune femme et son mari, par exemple, ont refusé de quitter la région parisienne.
Elle dit qu'elle est enceinte, elle a des rendez-vous réguliers avec le médecin, même demain matin, elle ne pourra pas partir. Elle est dort toujours pas 3 positions de logement et son mari, il a un contrat, il travaille.
D'accord. C'est un couple éthiopien et donc ils ont des papiers, ils ont le statut de réfugié. Ouais. Ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a un tel problème d'intégration et d'accès au logement social pour les personnes qui ont des papiers, qu'en fait, il y a pas mal de campements où c'est des gens qui ont des papiers et qui bossent. Et du coup, quand on vient avec un bus et qu'on leur dit « bah tiens, je peux t'envoyer à Strasbourg, à Toulouse ou à Bordeaux », ils disent « mais moi, j'ai un travail ici à Paris, je vis à la rue, c'est déjà tellement dur de garder ça, on veut m'envoyer à l'autre bout de la France, donc ils peuvent pas ».
Des bus qui repartent vides, ou presque, Paul Allozy en a vu beaucoup sur des opérations d'évacuation. Il reprend ses tableaux de données.
Donc là, vous voyez, le 23 avril, 2 personnes prises en charge. Le 30 avril, 2 personnes prises en charge. Donc là, l'État vient avec 150 CRS, des bus pour des SAS, et il n'y a que 2 personnes qui montent. Je vous assure, si au bout de cette destination, il y avait des solutions dignes, les gens se battraient et monteraient par centaines et on aurait des violences à l'entrée de ces bus. Si les gens préfèrent rester dans des campements de misère, dans la rue parisienne, plutôt que monter dans ces bus, c'est qu'il y a un vrai problème avec la destination.
Des personnes chassées de leur lieu de vie, repoussées toujours plus loin dans l'espace public, marginalisées et précarisées davantage. Les symptômes du nettoyage social dénoncé par le revers de la médaille ne sont pas une exception française. Le chercheur américain Jules Boykoff l'étudie depuis plus de 20 ans.
Les Jeux olympiques sont une machine à inégalité. Ce n'est pas propre à Paris, ce n'est pas propre à Londres, ni même à Rio, c'est propre aux JO. Et le problème est importé dans les villes hautes, à chaque fois.
Pour ses recherches, il a justement déménagé à Londres, à Rio ou encore à Tokyo au moment où elles accueillaient les JO. Il scrute chaque Olympiade et analyse les impacts de leur organisation sur la société. Si les méthodes diffèrent, les conséquences, elles, sont souvent les mêmes et les personnes sans abri, toujours des victimes collatérales.
La ville d'Atlanta, en Géorgie, organisait les Jeux Olympiques d'été en 1995 et 1996. La police a arrêté plus de 9000 personnes sans abri, le plus souvent sans aucun motif. Cela fait clairement partie d'une politique de nettoyage social, comme celle que subit actuellement Paris. D'ailleurs, en plus de recevoir des amendes juste parce qu'ils étaient pauvres, on distribuait à ces sans-abri des tickets de bus aller pour qu'ils quittent l'État et se rendent en Floride ou en Alabama. Tout ça, c'était il y a 20 ans. Ce que je veux dire, c'est que certes, les Jeux Olympiques sont le rendez-vous des plus grands athlètes du monde, mais la face cachée n'est pas belle à voir. Il y a une tradition ininterrompue de mettre hors de la vue des touristes les personnes qui vivent dans la rue. En revanche, cette politique d'hébergement en région, loin du spectacle des Jeux, c'est une spécificité française.
Les Jeux de Paris suivent-ils cette tradition olympique d'exclusion sociale ? Si les associations en sont persuadées, l'État clame que ces JO sont une occasion tardive mais sincère de mettre en place une politique de mise à l'abri. L'avenir nous le dira. Si le rythme des évacuations évolue à nouveau, si le système des SAS prend fin, une fois Paris 2024 terminé,
Le nettoyage social restera alors une tache sur la carte postale de ces jeux qui se veulent ceux de l'inclusion.
Et on vous retrouve, Marie Casadebet, après ce reportage que l'on vient d'entendre. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de ce sujet avec votre collègue Amélie Beaucourt ?
En fait, c'est un refrain qui devenait lancinant au fil de nos reportages ces derniers mois. Cet effet JO dont on nous parlait beaucoup. Et puis un faisceau d'indices avec ma collègue Amélie Beaucourt. On travaille beaucoup sur les questions d'immigration en France. Et beaucoup de nos reportages nous amenaient régulièrement à entendre parler d'un éloignement des exilés. Je me souviens par exemple d'un reportage en octobre dernier avec une association qui accompagne des mineurs isolés qui souhaitent être scolarisés à Paris. Cette association est basée à Paris et en fait, de plus en plus de jeunes se voyaient attribuer des chambres d'hôtels sociaux très éloignées de la capitale. Parfois à une heure et demie de trajet. Et ça devenait très compliqué pour ces jeunes de suivre les formations, d'être assidus, d'être ponctuels. Et les associations commençaient à imaginer que les hôtels parisiens ou de proches banlieues avaient décidé de changer finalement d'objet et de redevenir des hôtels de tourisme pour profiter justement de la manne des JO. Et d'ailleurs, il y a eu des manifestations d'occupants d'hôtels sociaux qui se retrouvaient du jour au lendemain à la porte et qui accusaient aussi le propriétaire d'avoir voulu profiter de cette manne financière. On a assisté évidemment à ce rythme aussi qui est décrit dans ce grand reportage, de plus en plus dense, des évacuations de campements. La Maison des Métallos, qui est une salle de spectacle dans le nord-est de Paris, est d'ailleurs encore occupé par près de 200 exilés et certains ont connu avant cela une, deux, voire trois évacuations des lieux où ils vivaient.
Il n'y a pas que le collectif Le Revers de la Médaille qui s'inquiète d'un nettoyage social avant les Jeux Olympiques.
Non, on peut citer d'abord la défenseur des droits, Claire Hédon, qui s'est auto-saisie de cette question. Elle disait craindre il y a quelques mois une évacuation des sans-abri à Paris et puis des étudiants aussi de leur résidence universitaire. En avril dernier, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au logement a interpellé aussi directement le gouvernement français. Il comparait même sa politique d'expulsion pour embellir Paris au comportement de la Chine ou de l'Inde avant des grands événements sportifs. Et puis, je pense aussi à la réaction du maire d'Orléans qui s'est plaint, mais alors pour d'autres raisons. Lui, il voyait débarquer dans sa commune des cars avec des exilés sans-abri venus de Paris. Il disait ne pas avoir été officiellement prévenu de ce système d'évacuation, d'éloignement. Et il disait que sa ville n'avait pas les moyens d'accueillir davantage de sans-abri, qu'elle était déjà débordée par les siens.
Mais aucune voix officielle n'a encore confirmé cette politique d'invisibilisation à l'approche des JO.
Non, évidemment, vous avez entendu la directrice de cabinet de la préfecture d'Île-de-France dans notre grand reportage, les ministères du logement, des sports démentent également. Il faut dire aussi qu'il y a un vrai problème de sans-abrisme à Paris et en région parisienne. Rien que lors de la 7e édition de la Nuit de la Solidarité, en janvier dernier, on a compté près de 3500 personnes à la rue, le temps d'une maraude. Il faut y ajouter évidemment les sans-abri aussi de proches banlieues et les solutions d'hébergement, c'est vrai, hein, à Paris, en région parisienne, sont vraiment insuffisantes.
Sur le papier, on pourrait penser qu'offrir un logement à des exilés à la rue, même si ce n'est pas à Paris, c'est une bonne idée.
Oui, mais en discutant avec les exilés, on se rend compte à quel point ça ne colle pas ou peu à leurs besoins, à leurs attentes. Il y a parfois eu des risques de ressortir de ces SAS régionaux avec une OQTF, une obligation de quitter le territoire, après examen de leur situation administrative. Ça, c'est pour les sans-papiers. On a vu aussi des hébergés qui rejoignaient très vite Paris parce que c'est là où ils connaissent du monde, où ils ont un réseau, ils ont des soutiens. Et puis aussi parfois, bien, Paris n'est qu'une étape vers l'étranger, par exemple. Et puis il y a beaucoup aussi d'exilés qui ont entamé des démarches administratives à Paris ou en proche banlieue. Et tout quitter pour tout recommencer dans une ville que l'on ne connaît pas, où on sait qu'en plus, au bout de 3 semaines, c'est encore l'inconnu, c'est encore une précarité, eh bien, ça n'a pas de sens. Donc, des gens préfèrent rester à la rue. Et ces dispersions, en tout cas, sont vraiment dénoncées par beaucoup d'associations qui accompagnent les exilés, qui souvent sont des gens traumatisés, ne serait-ce que par le fait qu'ils ont quitté leur pays. C'est ça, c'est une rupture en fait dans le suivi psy, une certaine stabilité qu'ils avaient trouvée avec des associations et même dans un squat ou un campement insalubre. C'est une vraie rupture et c'est une précarité, une instabilité suffisante qui souvent approfondissent encore le traumatisme.
Merci Marie Casadebé ainsi qu'à Amélie Beaucourt avec qui vous avez produit ce reportage. Depuis près d'un an, l'Europe n'a plus son propre accès à l'espace. La fusée Ariane 5 est partie à la retraite l'an passé. Sa cadette, Ariane 6, doit s'envoler pour la première fois le 9 juillet prochain. Un premier lancement crucial pour les Européens, bousculé par la concurrence de l'américain SpaceX, l'essor du secteur spatial chinois ou encore la multiplication de start-up qui promettent de révolutionner l'espace avec de nouvelles fusées de petite, voire de très petite taille. Ariane 6. Une fusée pour renvoyer l'Europe dans l'espace, c'est le grand reportage de Justine Fontaine.
Il est 7h40 du matin au centre spatial de Kourou, en Guyane française, un site gigantesque qui fait la taille de la ville de New York. Plus de 1500 personnes travaillent ici et en cette fin du mois d'avril, il fait pas loin de 28 degrés avec une forte humidité puisqu'on est à la lisière de la forêt tropicale, pour ne pas dire dans la forêt tropicale.
Je vous en laisse. À partir de maintenant, on laisse rentrer plus personne. Plus personne en entrée.
Ça y est, la porte du grand hangar dans lequel le corps central, la colonne vertébrale de la fusée Ariane 6 a été assemblée, vient de s'ouvrir. Ça ressemble à un grand cylindre blanc, plus de 40 mètres de long, bientôt 60 quand la fusée sera complète. Elle s'avance à l'horizontale, vers son pas de tir, quelques centaines de mètres plus loin, tout doucement, sous les yeux des équipes de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, du CNES, l'Agence spatiale française, et d'Ariane Group, entreprise européenne qui conçoit et produit les fusées Ariane, et s'occupe aussi de leur commercialisation, c'est-à-dire de vendre des places pour les satellites dans la fusée.
Ok, c'est bien reçu, autorisation accordée, début de verticalisation. Ok.
La colonne vertébrale d'Ariane 6 arrive maintenant sur son pas de tir, où elle est progressivement placée à la verticale, sous un énorme portique, une sorte de grand hangar de 90 mètres de haut, qui est amovible et sera donc retiré juste avant le décollage de la fusée.
Karine Levaux, directrice du transport spatial au CNES. C'est l'agence spatiale française.
Elle est assez émue de voir cette fusée enfin si proche du lancement après une série de difficultés en chemin et 4 ans de retard sur le programme initial.
Ça y est, on y est là. Ça y est, c'est demain. Demain, ce corps central va se propulser dans l'espace, va mettre en orbite des satellites et c'est vraiment la concrétisation du travail de milliers de personnes. Donc c'est vraiment quelque chose de poignant.
Le retard d'Ariane 6, donc comment on peut le résumer, l'expliquer ?
Ariane 6 a connu du retard lié à plusieurs facteurs. Le premier, c'est la crise sanitaire mondiale qu'on a connue, qui a paralysé l'ensemble de l'économie mondiale et le travail. Et donc là, ça a beaucoup perturbé le développement des infrastructures sol ici en Guyane.
Donc les travaux ont été interrompus ici pendant la pandémie pendant plusieurs semaines ?
Pendant plusieurs semaines, effectivement. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce développement a été décidé pratiquement 30 ans après le développement d'Ariane 5. Et donc, on a dû, dans l'industrie, recréer des compétences qui avaient disparu. Et enfin, on doit bien le reconnaître, on a eu aussi des problèmes techniques à résoudre. Et ça, ben, quand on est face à des aléas techniques, il faut prendre le temps de les traiter. Mais aujourd'hui, avec l'émotion du transfert, j'oublie ce retard.
Ce retard, pourtant, il est dans toutes les têtes ici. Et c'est l'un des éléments qui fait que l'Europe du spatial se trouve à un tournant. Depuis près d'un an, les Européens n'ont plus leur propre accès à l'espace. Alors comment l'Europe en est-elle arrivée là ? Il y a trois raisons à cela. D'abord, la guerre en Ukraine qui a poussé les Russes et leurs fusées Soyouz à quitter le centre spatial de Kourou en mars 2022. Quelques mois plus tard, la fusée italienne Vega C a dû être détruite en vol après un problème technique. Elle ne pourra pas redécoller avant la fin de l'année. Et puis il y a un an, Ariane 5, la grande sœur d'Ariane 6, a effectué son dernier vol et a pris sa retraite.
4, 3, 2, unité, top, allumage moteur Vulcain. Tous les paramètres à bord sont normaux.
Depuis la fin d'Ariane 5, les Européens ne peuvent donc plus envoyer dans l'espace leurs satellites militaires qui sont cloués au sol. Alors que la Chine multiplie les lancements et que l'Inde s'affirme de plus en plus comme une nouvelle puissance spatiale, l'Europe, faute d'avoir son accès à l'espace, a même été contrainte de faire appel à SpaceX pour lancer des satellites Galileo, du nom du système européen de géolocalisation. SpaceX, le grand concurrent américain, qui a chamboulé le secteur avec ses fusées réutilisables, des prix cassés et près de 100 lancements l'an dernier, tandis qu'Ariane 6 devrait en effectuer seulement une dizaine par an. On s'éloigne désormais du pas de tir et de la zone de lancement de la fusée pour aller vers la salle de contrôle Jupiter, quelques kilomètres plus loin, près de l'entrée principale du centre spatial de Kourou. C'est d'ici que sera donné le feu vert pour lancer la toute nouvelle fusée. Raymond Boyce, le directeur des opérations, sera chargé du compte à rebours. Il reconnaît que la concurrence de l'entreprise du milliardaire Elon Musk est dans tous les esprits.
Il y a une pression, il faut y aller, il faut absolument que cette année on puisse lancer. Je ne parle pas ni d'échec ni de succès, mais il faut qu'on puisse lancer cette année pour montrer aussi au monde entier quoi, que l'Europe ne s'est pas terminée. Quoi, parce que maintenant on ne parle que de SpaceX, mais nous on est encore présents. Donc il faut vraiment qu'on puisse montrer à l'Europe que son lanceur est prêt, qu'il est fiable et qu'il puisse faire peut-être une carrière aussi longue qu'Ariane 5.
Le tout premier vol d'Ariane 5 avait échoué, ce qui n'est pas rare pour un lancement inaugural, rappelle Raymond Boyce.
De toute façon, bon, il faut savoir qu'un premier vol, des fois, un échec peut être considéré comme un succès aussi. Bon, ça, je ne vous l'apprends pas, puisque bon, tout dépend à quel moment intervient l'échec. Ça peut être un succès aussi, parce qu'on apprend pour améliorer. Globalement, à la fin, on peut dire qu'il y a échec, mais globalement, ça peut considérer que on a beaucoup appris, on pourra améliorer pour le suivant. Échec ou pas, c'est sans succès. Donc moi, je suis très polarisé sur la réussite de ce vol et je suis sûr que ça fonctionnera. On n'a pas pris 4 ans de retard pour rien, donc c'est bien pour peaufiner au maximum.
Apprendre de ces échecs, quitte à perdre beaucoup de fusées, c'est la stratégie de SpaceX, mais pas vraiment celle d'Ariane 6, qui a un modèle de financement public nettement plus rigide. Le mot d'ordre est donc à l'optimisme au sein du centre spatial. Michel Bonnet, directeur pour l'ESA du vol inaugural d'Ariane 6, tient aussi à relativiser la comparaison avec le concurrent américain.
On ne va pas nier qu'il y a une période compliquée. Après, c'est difficile de comparer le marché, j'allais dire, ouvert à Ariane et celui de SpaceX. Il ne faut pas oublier que SpaceX, son premier client, c'est Starlink.
Starlink, le fournisseur d'accès à Internet par satellite qui appartient lui aussi à Elon Musk.
Donc, M. Musk, il est lui-même son premier client. Donc, il a une capacité de baisser les prix et de faire une concurrence qui est effectivement déloyale. Bon, il a le droit de le faire, mais on n'est pas du tout dans le même contexte. Donc, c'est difficile de faire la comparaison.
Concurrence déloyale ou pas, près de 80% des vols de SpaceX l'an dernier ont en effet été pour mettre en orbite des satellites de Starlink. Cyril Ponroy, directeur de mission du vol inaugural pour Ariane Espace, tacle la concurrence américaine. Pour lui, Ariane, c'est une voiture de luxe très performante et SpaceX, une entreprise low cost.
Quand vous achetez une Ferrari, vous achetez une Clio, vous achetez un service. C'est deux services différents. Les clients qui viennent chez nous achètent un service de très haut niveau. Et on a eu les échos, un client qui avait été signé chez nous et qui malheureusement, suite à du retard de son côté, est sorti de son créneau de lancement. Donc on n'avait plus de possibilité de le lancer. Il a été lancé chez SpaceX. Et on a eu donc, le retour direct du client qui a passé 6 semaines chez SpaceX. À la notion de service chez SpaceX est très loin. Ils ne payent pas cher, mais ils n'ont aucun service.
SpaceX prendrait donc moins soin des satellites de ses clients avant le lancement, selon lui. Ariane est par ailleurs plus précise au moment de placer les satellites en orbite. Et puis un monopole, une seule entreprise qui domine le marché des fusées de grande taille, ce n'est pas souhaitable pour le business spatial, conclut-il.
Madame, Monsieur, bienvenue à Paris Aéroport Charles de Gaulle. Il est 7h en heure locale.
Face à la crise des fusées européennes, les États membres de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, ont décidé en novembre dernier de remettre la main à la poche à partir de 2026, jusqu'à 340 millions d'euros par an pour Ariane 6, notamment pour faire face à l'inflation. En contrepartie, les industriels se sont engagés, eux, à baisser de plus de 10% leurs coûts de production. Surtout, les membres de l'ESA, Allemagne en tête, ont acté l'ouverture à la concurrence des fusées européennes. Une petite révolution dans le secteur, comme l'a souligné le directeur général de l'ESA, Joseph Aschbacher, pendant une conférence de presse.
Space transportation is something that for Europe is...
Le transport spatial est un sujet très délicat pour l'Europe aujourd'hui. Les 22 États membres de l'ESA se sont mis d'accord pour changer la façon dont nous financerons les fusées, les lancements à l'avenir. L'ESA va ainsi lancer un concours de fusées sans restriction de taille ou de poids, dans le cadre duquel nous demanderons aux industriels de proposer leurs services de lancement. Il s'agit d'une toute nouvelle façon de procéder, d'un véritable changement de paradigme.
Un changement de paradigme inspiré de ce qui se fait aux États-Unis avec SpaceX. Depuis quelques années, les initiatives privées se multiplient dans le spatial. Les startups sont de plus en plus nombreuses à développer leurs propres fusées.
Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous arriverons en gare de Reims. Nous serons reçus à la voie E. La descente se fera côté droit dans le sens de la marche. Avant de descendre, assurez-vous d'avoir pris tous vos bagages et sacs à dos.
On est à Reims, dans l'est de la France. On va aller retrouver une start-up qui se prépare à se lancer dans l'espace avec de petites fusées. C'est un type de fusée qui doit être dédié au lancement de très petits satellites. Il y a énormément de start-up qui sont en train de se lancer dans ce domaine. Et donc, on va essayer d'en savoir plus. Donc on va prendre la voiture pour aller jusqu'à l'aéroport de Vatry. C'est à une cinquantaine de minutes d'ici en voiture. Et c'est là que la start-up qu'on va voir, qui s'appelle Latitude, fait ses essais en vue de préparer donc, cette fusée qui doit être lancée l'année prochaine, en 2025. On vient d'arriver à l'aéroport, il y a un peu de vent. Allô ?
Vous êtes sur quel parking?
Sur le parking passager. Je suis à côté de la voiture là.
Je vous vois.
Ok. A tout de suite, je traverse. On entend des avions qui passent. L'armée belge organise des exercices ce matin à l'aéroport.
Encore ici pour vous.
Bonne journée.
À tout à l'heure, il faudra venir me rendre les badges. Dès que vous avez fini.
On récupère un badge d'accès, puis on arrive devant 4 petits hangars en béton avec des préfabriqués dedans. On est sur une ancienne base militaire de l'OTAN. On voit aussi plusieurs conteneurs. C'est ici que la start-up Latitude fait des essais sur les différents éléments de sa future petite fusée, Zephyr.
Moi, je suis Nicolas Delery, je suis le coordinateur de la zone d'essai de Vatry.
La salle de contrôle des essais se trouve dans l'un des préfabriqués.
Donc là, on a à l'intérieur 5 pupitres, des écrans, des PC, où on va pouvoir voir toutes nos vannes, tous nos capteurs de température, de pression, etc. Et ça nous permet de contrôler comment se déroule l'essai en direct live.
Donc ça ressemble à des bureaux avec des ordinateurs qui sont dans un préfabriqué. Et c'est sur ces écrans donc, que tous les capteurs vont être suivis par vos opérateurs, par vos salariés.
Exactement.
Deux autres bancs d'essai servent à faire des tests sur des éléments du moteur.
Là, nous sommes devant le banc turbopompe. Donc c'est ce qui nous permet de mettre en pression la chambre de combustion et donc d'envoyer les fluides à la pression désirée. Donc on construit en ce moment même tout le banc. En fait, l'ensemble turbopompe, chambre de combustion, c'est les deux principaux éléments d'un moteur fusée. Pour l'instant, le test du moteur, il est prévu fin d'année, début d'année prochaine. Et donc on pourra s'assurer qu'il est opérationnel.
La fusée construite par la start-up française sera 3 fois moins haute qu'Ariane 6. Elle ne pourra emporter que 100 à 200 kg de charge de satellite, donc contre 5 à 10 tonnes pour la fusée européenne. L'Attitude pourrait effectuer son premier lancement à la fin de l'année prochaine.
Alors Adeline Pitrois, je suis directrice commerciale chez l'Attitude. C'est une société qu'on peut appeler donc, de la catégorie du New Space, donc, qui a été créée en 2019. SpaceX a été un des précurseurs justement de ce mouvement du New Space. Il y a plusieurs caractères qu'on peut associer à ce mouvement. Le premier, c'est un financement plutôt privé, alors que le spatial était plutôt issu de financement public. Et également une façon de penser différente. SpaceX a été précurseur, ce qu'on appelle fail fast, learn fast.
Précurseur. Alors en français, donc c'était une méthode itérative, voilà. En fait, apprendre vite, de ses échecs.
On échoue, on apprend, on teste, on échoue, on apprend. C'est vraiment cette méthode de développement itératif, en tout cas, qui a été également insufflée dès le départ, nous, chez l'Attitude, et qui va nous permettre d'arriver donc, rapidement, donc avec un premier tir qui est prévu fin 2025. Et ce premier vol va être ce qu'on appelle un vol test, qui ne sera pas un vol commercial, qui sera vraiment un vol test dans cette logique de développement itératif. Et le premier vol commercial, lui, est prévu pour mi-2026.
Ça veut dire que ce qui peut paraître comme un échec aux yeux du grand public, vous, ça va vous permettre plutôt d'apprendre pour essayer d'avoir ensuite plus vite un premier vol commercial réussi ?
Oui, alors c'est encore compliqué aujourd'hui dans la culture européenne d'avoir cette approche, puisqu'on le sait très bien et on le voit avec l'arrivée d'Ariane 6 dans quelques mois, c'est très compliqué de pouvoir penser l'échec comme étant une réussite. C'est plutôt ce qu'on peut appeler une mentalité américaine. Mais c'est ce qu'on essaie de mettre en place, puisque nous, on estime que c'est vraiment comme ça qu'on apprend le plus vite et qu'on arrive très vite à détecter les difficultés, les problèmes, corriger et retourner en test.
La société a levé environ 50 millions d'euros et a reçu aussi le soutien de l'État français. Elle vise le marché des très petits satellites, qu'ils appartiennent à des institutions publiques ou bien au secteur privé.
L'objectif pour nous, c'est d'offrir à des clients un vol dédié. Juste pour rappel, aujourd'hui, les petits satellites sont obligés de passer par ce qu'on appelle des vols rideshare, donc c'est des vols partagés. C'est comme si, pour vous déplacer, vous aviez que des bus et vous aviez absolument pas de taxi. Donc tout le monde est obligé d'aller au même endroit. Ces petits satellites n'ont pas le choix en termes de planning de lancement, n'ont pas le choix sur la façon de penser leur mission, puisqu'ils ont des orbites imposées par ces vols partagés. Donc nous, on envisage, alors c'est un objectif, d'offrir des vols dédiés entre 3 millions et 5 millions, ça dépendra de la version du lanceur.
3 à 5 millions d'euros pour un lancement contre près de 100 millions pour une fusée Ariane, beaucoup plus grande. L'Agence spatiale française sera le premier client commercial de l'Attitude. Une manière pour Paris de soutenir cette start-up face aux jeunes sociétés d'autres pays européens dans la course aux petites fusées. Adeline Pitrois le sait, la concurrence sera rude.
On le voit même autour de nous, on le voit au fur et à mesure, il y a énormément de projets qui évoluent ou qui disparaissent. Et le marché va se décanter progressivement. Plus il y aura des solutions de lancement, plus il y aura des solutions de lancement diversifiées. Et plus les clients en face auront la possibilité, eux, de varier leur business ou de varier leur constellation, leur projet satellite.
Ailleurs en Europe, la start-up allemande Isar Aerospace prévoit d'envoyer sa première mini-fusée dans l'espace dès cette année. L'espagnol PLD Space a fait voler avec succès un prototype de mini-lanceur l'an dernier. Et même Ariane Group, qui fabrique Ariane, a créé sa propre filiale pour développer une petite fusée appelée Maya.
Thank you.
Bonjour Justine Fontaine.
Bonjour.
Journaliste au service économie de RFI. Justine, on vient d'écouter votre reportage. Dans quelles conditions a-t-il été réalisé ?
Alors, cette visite du centre spatial de Kourou a eu lieu dans le cadre d'un voyage de presse. Nous étions une dizaine de journalistes de différentes nationalités présents en même temps au centre spatial à l'occasion de l'arrivée d'Ariane 6 sur son pas de tir. Les agences spatiales et Ariane Group, l'avantage pour elles, c'est notamment de simplifier la logistique. Il y a beaucoup de contrôles de sécurité pour entrer sur le site, pour éviter l'espionnage industriel, mais aussi parce que les fusées lancent des satellites militaires. Il y a un enjeu de défense derrière. Et pour les journalistes, l'avantage d'un voyage de presse, c'est que ça permet d'avoir accès en un même endroit à plusieurs interlocuteurs importants et de gagner du temps dans certains cas, ou de participer à une visite qui n'aurait pas forcément été organisée pour un seul journaliste. Même si, il faut le dire aussi, que lors de ces voyages, la communication est souvent très cadrée. Chacun se renvoie un peu la balle. Je suis restée 3 jours et au début, j'avais même l'impression que mes interlocuteurs refusaient ne serait-ce que de nommer le concurrent SpaceX. Ensuite, on l'entend dans le reportage, les langues se sont un peu déliées et il y a eu des échanges un peu moins formels.
On l'a entendu dans votre reportage, le secteur spatial européen évolue, notamment avec l'ouverture à la concurrence. Comment ça se manifeste concrètement sur place ?
Alors, le centre spatial se prépare à accueillir des petites fusées dont on parlait. La France a débloqué 50 millions d'euros pour moderniser un ancien pas de tir qui n'est plus utilisé depuis les années 70. Les travaux sont en cours et PLD Space, la start-up espagnole que je mentionnais à la fin du reportage, vient d'annoncer cette semaine qu'elle ajoutait 10 millions d'euros pour que ce pas de tir puisse accueillir sa fusée d'ici quelques mois. Enfin, il y a un aspect que je n'ai pas évoqué dans le reportage, une autre mutation en cours pour le spatial européen, ou en tout cas pour le centre spatial de Kourou, c'est sa transition énergétique.
L'agence spatiale française, Justine, qui gère le site, veut réduire son impact environnemental et produire sa propre énergie.
C'est ça, elle est en train d'installer ses propres panneaux solaires et de construire une centrale biomasse. Bon, pour faire simple, c'est une centrale électrique dont le combustible serait par exemple des copeaux de bois. Objectif, que cette centrale biomasse et que l'énergie solaire couvre 90% de la consommation électrique du site d'ici à 2030. Le centre spatial puise aujourd'hui son énergie d'un barrage hydroélectrique qui alimente aussi une bonne partie de la Guyane. Par ailleurs, des mesures ont été prises pour réduire la consommation, réduire les besoins de climatisation sur le site.
Justine, je voulais vous poser une dernière question. Vous évoquez plusieurs fois SpaceX et d'un mot la Chine et l'Inde. En dehors des États-Unis et de l'Europe, quelles sont les autres grandes puissances spatiales ?
La Chine a de grandes ambitions spatiales. Elle a sa propre station spatiale en orbite, plus modeste que la station spatiale internationale, mais tout de même. Elle a aussi rapporté cette semaine des échantillons de la face cachée de la Lune. Et puis elle envoie des satellites de télécommunication dans l'espace pour des services d'accès à Internet chinois. Le Japon, de son côté, a récemment rejoint aussi ce club lunaire, si on peut dire, en début d'année. Après, l'Inde, qui a envoyé une sonde, elle aussi, sur la Lune l'an dernier. New Delhi a ouvert d'ailleurs son marché aux acteurs privés et l'Inde devient une puissance spatiale émergente. Enfin, la Russie, qu'on a mentionné d'un mot, puissance spatiale historique, est encore présente dans le domaine spatial, même en ayant quitté le centre de Kourou.
Merci Justine Fontaine, journaliste au service économie de RFI. Grand reportage, le supplément du dimanche touche à sa fin. À la réalisation, Pauline Leduc, Ludivine Amado et David Brockway. Merci à eux. Dès demain lundi, bien sûr, un nouveau grand reportage. Bonne fin de week-end à vous.